massacre aussi il y a pas longtemps, il y a 2 mois au Burkina Faso, qui a fait beaucoup résonance de peuple.
C'est ce dont on parle justement, oui.
Non. Là, on parle du Burkina quelques semaines avant.
Il n'y a pas longtemps qui a fait beaucoup résonance. Suite à chez le village qui a été assassiné, il y a une centaine de peuls qui ont été assassinés.
170.
Et ça fait beaucoup de résonance avec une démarche au Burkina Faso.
Oui, ce sont des milices dites Dogon qui sont supposées avoir attaqué. Or, elles sont dites Dogon parce que les hommes sont habillés selon les rites des confréries de chasseurs Dogon. Or, ces habits sont utilisés par la moitié de la population à l'échelle régionale. Donc, à nouveau, on se trouve en face d'une situation dans laquelle on impute à une catégorie sociale, sur la base d'un élément extrêmement léger, des habits, hein, une réputation et des responsabilités qui, en fait, sont à analyser dans des contextes, en fait, soit socio-professionnels, soit, au contraire, terriblement idéologiques et religieux. Mais là, les documents ne sont pas encore clairement précis, suffisamment précis. Enfin, moi, j'en reçois tous les jours. Hein,
je suis pas du tout un connaisseur de ces questions, mais ce qui m'a frappé au cours de ces dernières années, où j'ai pas mal circulé entre Centrafrique et Mali en particulier, pas dans cette région-là, mais dans ces deux pays, c'est le fait que le peul, pour le dire dans des termes essentialistes, c'est un peu le rhum du coin. J'ai été frappé par l'analogie bien avant cette phase. Enfin, je m'étais fait la réflexion sur place. Le peul, c'est l'emmerdeur, le voleur, le fourbe, celui qui vient en plus avec ses troupeaux quand il en a, parce que peuples paupérisés qui ont tout vendu et qui sont d'une certaine manière dans une situation de double peine. C'est-à-dire, ils sont déjà réduits à la misère par la réduction des pâturages, par des vols éventuels. Et en plus, le misérable, il est dangereux parce que c'est le voleur potentiel, c'est celui qui va piller votre jardin, votre maison. Et j'étais à un moment dans un hôpital au nord du Centrafrique avec équipe de MSF, et on a été pris dans une affaire de lynchage d'un type. On l'a sorti de justesse, mais ça a été... en fait, il était déjà sérieusement blessé, on n'a pas réussi à le sauver, et ça a été vraiment affreux, quoi. Les gens se sont arrêtés de lui taper dessus parce qu'on l'a entouré, on l'a mis dans notre véhicule, mais c'était un lynchage pur et dur. Parce que c'était un peu là.
Vous avez tous les deux tout à l'heure mis en évidence l'existence d'une relation entre dominant-dominé, exploitant-exploité. Les peuls dans cette situation que tu présentes comme dominés ont été durant tout le 19e siècle les dominants et les conquérants avec des formes d'organisation politique à l'intérieur du delta central du Niger absolument remarquable, qui avait réussi à gérer le problème de l'accès aux ressources fourragères, etc., d'une manière absolument extraordinaire. Enfin, moi, comme spécialiste des problèmes fonciers, j'ai toujours été absolument étonné par la subtilité et l'efficacité de ce type de système. Donc, tu as tout un ensemble de règlements de compte qui sont en train de se faire sur la base des inversions de relations qui sont... alors que les Dogons étaient exploités par en particulier le royaume de Bandiagara entre 1850 et 1880 à peu près. Hein, maintenant, il y a des retournements de situation. Et moi, j'ai été travailler là-dessus il y a une trentaine d'années. Je dois te dire que c'est vraiment totalement explosif. Totalement explosif. Donc, comment interpréter tout ça et comment accepter les explications qu'on apporte actuellement?
Mais surtout, moi, je voudrais rebrancher sur le thème d'aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut imaginer qu'un journaliste puisse se saisir de cette complexité sans en faire une essentialisation en disant il y a les pôles qui sont les mauvais et les démons qui sont les bons. Donc, comment est-ce qu'on peut imaginer que les éditorialistes dont, dont tu parles puisse se prendre la tête en disant il faut peut-être qu'on arrête de travailler l'autre avec un grand A de cette façon péjorative aussi systématique, qu'il soit Peul, qu'il soit Rome, qu'il soit tout ce qu'on a vu aujourd'hui.
Je pense que le problème, c'est les éditorialistes.
On est dans les médias, justement.
Même si on n'est pas en mesure de trouver une solution à ce problème, il existe en tant que tel, sui generis. Ce sont des gens qui sont payés pour produire un avis sur tout, chaque jour. Mmh. Et ça, c'est pas possible, c'est humain, c'est une tâche à laquelle personne ne peut se hisser, quoi. C'est surhumain, mais c'est présenté comme quelque chose d'évident, donc Bernard Guetta, ou je ne sais qui,
qui en a vu. Il tourne Kazakh, lui.
Surtout, il est candidat à la République en marche, j'ai vu, oui. Mais, je pense à Bernard Guetta parce que j'ai eu plusieurs altercations très violentes, enfin vraiment très dures avec lui, y compris sur des choses qui étaient totalement inattendues. Par exemple, sur les effets du tsunami, quand je contestais que le tsunami provoque une situation d'urgence sanitaire en Indonésie et au Sri Lanka, je contestais qu'il y ait famine ou menace de famine ou d'épidémie. Ce qui est, mais alors là, purement technique, quoi. C'est un savoir pratique. C'est que d'ailleurs, depuis Pasteur, tout le monde peut partager, quand même, la génération spontanée des épidémies, ça ne devrait plus être à l'ordre du jour. Mais quand je disais ça, Bernard Guetta s'énervait. Enfin, j'étais invité à la matinale de France Inter, et ça, mes propos ont provoqué la furie de Bernard Guetta, qui me traitait...
Tu lui cassais sa baraque.
Oui, c'est ça. Il avait dû faire un édito dans l'autre sens, la veille, je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas, je n'avais pas écouté. Mais c'était... Donc que ce soit sur le tsunami, sur la Libye, sur des tas de choses dont il ne connaît rien, il se prononce, mais bon, je ne vais pas m'en prendre à Bernard Guetta, on s'en fiche de Guetta. Il symbolise, il personnalise cette catégorie de journalistes ou d'intellectuels qui se prononcent sur tout et tous les jours. Et ça, c'est effrayant, quoi. C'est un problème. Je ne sais pas comment on peut traiter ça, par la suppression des débats.
Vous avez peut-être appris que la revue Afrique contemporaine est en crise depuis quelques jours.
Elle est morte.
D'une manière, moi je trouve absolument passionnante. Ça ne m'étonne absolument pas ce qui s'est passé dans ce contexte-là. J'étais très associé au fonctionnement de l'AFD sur ce domaine. Alors, cette revue est une des grandes revues africanistes qui était gérée jusqu'en 2005 par la documentation française, qui a été reprise par l'Agence française de développement pour en faire sa revue de référence. J'avais contribué à la revue Afrique contemporaine avant, et depuis j'ai refusé de continuer à y travailler, tout en étant très associé à des travaux d'AFD. Donc j'aurais pu le faire, et je ne l'ai pas fait, par méfiance. Et effectivement, on se trouve en face de... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que des travaux d'auteurs canadiens ne sont pas conformes à la doxa française, et en particulier celle qui est développée à l'intérieur de l'agence, mais dans des contextes extrêmement récents de reprise en main par apparemment les visées de l'orientation des stratégies de l'Agence française de développement, avec le départ en particulier de Gaël, qui chef économiste, qui a été obligé de quitter son poste par reprise en main du système. Et donc on est en face là du refus de la communication d'un certain nombre de travaux scientifiques concernant le Mali, qui sont donc l'objet de travaux de chercheurs canadiens pour valoriser un certain type de positionnement et surtout refuser un certain type de questionnement, qui est globalement ce que j'évoquais tout à l'heure à propos de ce que disait Gus, c'est-à-dire la possibilité d'une décolonisation juridico-idéologique et institutionnelle dans le contexte du Mali. Donc là, on est en face de manipulation. Alors, est-ce qu'il fallait que l'équipe rédactionnelle donne sa démission maintenant ? Est-ce qu'il n'aurait pas dû la donner plus tôt ? Il y a bien sûr un certain nombre de considérations d'ordre beaucoup plus personnel dans ce type de situation. Mais globalement, on est bien dans les mêmes types de contraintes et de difficultés à pouvoir considérer qu'on va pouvoir continuer à publier quelque chose. Hein ? Parce que je redis ce que je disais tout à l'heure, j'ai un bouquin, ça fait un an que je le présente à 9 éditeurs, et de la découverte à Bouillante, par exemple, tout le monde me dit non, c'est intéressant, mais c'est pas chez nous qu'il faut publier. Donc ça veut dire que...
Voilà. On va faire les auto-éditions regard.
Ça va bien.
Dominique.
Je reviens sur le fait qu'on constate tout ça formidablement depuis des années. Cette histoire, là c'est le monde diplôme, hein, ce mois, le plus gros bobard à la fin du XXe siècle, où BHL était déjà lié.
C'est quoi le
bobard ? Eh bien c'est la Tchécoslovaquie, c'est Milosevic.
C'est quoi ?
C'est Yougoslavie.
La Yougoslavie, pardon, oui. C'est remarquable, c'est monté comme l'affaire d'Alibi, exactement, avec les mêmes acteurs en gros, voilà. Donc on fait des constats, on continue à le faire, tu l'as fait, ça continue, et l'histoire d'une surenchère répressive, qui est quand même aussi, depuis la Révolution française et même avant, quelque chose de ce que nous n'ignorons pas tout ça. Ça continue à fonctionner, mais nous savons. Alors, quelqu'un comme moi s'intéresse à pourquoi. Pourquoi il y a cette façon de vouloir ne pas voir. La passion de l'ignorance, disait Lacan. Bon. Eh bien, il y a plusieurs champs. C'est complexe quand on parle des éditorialistes. Ce sont des gens, à mon sens, qui ne sont pas cultivés, qui ne sont pas ouverts à la complexité, qui ne savent pas réfléchir les contradictions et les différents champs qui viennent s'interposer, comme vous le disiez si bien tout à l'heure. Donc, par exemple, l'image et le discours. C'est remarquable ce que tu dis sur le fait que le discours est préalable à la pensée, si je puis dire. Enfin, la pensée organise à travers ses mots et son discours une façon de penser les choses qui va, alors là pour moi c'est très clair dans le sens du capitalisme avec la marchandisation, enfin c'est vraiment une volonté politique d'organiser un système de pouvoir. Alors ça pour moi c'est très évident, mais l'histoire de l'image et du discours a été étudiée fort bien par Marie-Josée Monzin par exemple, sur l'histoire des icônes, et puis par Hitler lui-même, dans Mein Kampf, il dit je vais supprimer les textes et une seule image, on leur en apprendra et les convaincra beaucoup plus vite et beaucoup mieux. Donc cette lutte entre l'image et le discours est quelque chose qu'on sait depuis toujours. Par exemple, je ne sais plus lequel de ces grands magazines, par les abordés, donc par ne plus me souvenir de leur nom, c'est le choc des mots et le poids de l'image, l'inverse, ou je ne sais quoi. Mots, image, c'est exactement les mots que tu reprenais tout à l'heure. Donc en effet, il y a quelque chose qui se joue dans la dynamique de ce qui passe du réel entre les mots et les images. Alors là, tu disais, il n'y a plus besoin d'image, on ne peut pas montrer une non-image. Oui, enfin, il a quand même fallu des images pendant des siècles, parce qu'il y a. Parce qu'il n'y avait pas de photographie, c'était que la peinture, les icônes justement. Mais il n'y avait pas de photographie. La photographie, enfin, ces images captées, enfin, à la télé, tout ça, est venue à peser très lourdement, malgré tout. C'est-à-dire qu'il faut un discours, mais il faut des images. C'est plus possible autrement. Donc voilà, ça je voulais juste dire que. Bon. Et alors, ce rapport au réel que nous avons. Pourquoi nous laissons-nous berner ? Pourquoi nous ? Voilà. Et ça, c'est une question. Alors là,
Michel. Et puis Gus, d'accord.
Je rebondirai bien sur cette intervention. J'avais commencé en disant, en gros, les liens entre guerre et mensonge, c'est la même chose dans un régime démocratique et dans un régime autoritaire. Mais cette catégorie de régime démocratique est un gros problème. On pense avec la langue d'hier. Et c'est un piège quand même, ce mot démocratique. De quoi parle-t-on ? Est-ce qu'on parle de la manière d'accéder au pouvoir ou de l'exercice du pouvoir ? Aujourd'hui, on peut dire qu'on accède au pouvoir par des procédures qui sont plus ou moins démocratiques, contrôlées, etc. Mais l'exercice du pouvoir n'est absolument plus démocratique. On n'est pas associé, on élit, on ne vote pas. Voilà, il y a plein de choses qui relèvent de ça. Et nous-mêmes, on est obligé de penser avec ces mots. Peut-être que là, il y a un travail et des choses à dire et à faire, parce que le mot démocratique est devenu...
Je pense que la démocratie... Par régime démocratique, je ne désigne pas simplement le pouvoir, mais il y a aussi le fonctionnement social. Oui. Tout de même, un pays où, par exemple, nous sommes capables de nous réunir
franchement,
ici...
ayant vécu dans des pays non démocratiques, je peux dire que rien que cette possibilité aujourd'hui d'être là, financée par la mairie de Paris...
Sans crainte.
Sans aucune crainte, et il n'y a personne de dehors qui va nous prendre...
Ça ne relève pas du pouvoir, ça relève du fonctionnement social.
Mais Carole, c'est rien en retard.
Comme oui, mais Carole, c'est ta femme,
c'est le niveau de crainte pour qu'on a...
C'est de ça que je parlais, sinon les réserves sur l'exercice du pouvoir, je les partage également.
Oui. Gus, et puis Philippe.
En fait, c'est quand même très difficile parce que c'est très contradictoire. C'est-à-dire que, par rapport à ce que disait Rony, voilà. C'est vrai qu'on est, d'abord confronté à un discours qui est très dominant. Voilà, bon. Et comment lutter contre ce discours dominant ? Il y a une proposition... c'est de développer une diversité culturelle et une diversité d'informations. Et ça, c'est assez positif. C'est un peu ce qui se fait, notamment à travers les médias libres, à travers, je vois un peu, et à travers le fait que, y compris les différentes catégories, peuvent développer leur propre parole. Les peuples peuvent développer leurs propres paroles à travers les médias libres, etc. Enfin, donc, je vois récemment encore, vient de se construire un média sur des sourds en langue des signes, voilà, et donc effectivement, la parole sourde est très différente. Enfin, celle qui s'exprime là, elle est très différente, elle est portée par les sourds. Donc effectivement, ça c'est quelque chose de très positif. Mais ça, on voit bien que ça ne suffit pas parce que, alors toi tu disais c'est un peu les éditorialistes, ce qui est vrai.
Ben, mais... disons, oui, non, mais... symbolise ça, mais je ne veux pas tout leur mettre sur le dos.
Hein, je remarque ce symbole parce que je pense qu'il est très juste. À mon avis, la contradiction, elle est avec la question de l'hégémonie, et notamment de l'hégémonie culturelle qui s'impose à un moment donné. Voilà. Bon, et donc cette hégémonie culturelle, c'est un mélange... à la fois de l'hégémonie du marché et de l'hégémonie de la victoire culturelle d'un certain nombre d'idées. C'est ce qui se passe par exemple pour les services, c'est ce qui se passe pour toute une série de choses. Effectivement, il n'y a qu'une parole qui est légitime parce qu'elle a conquis l'hégémonie culturelle. Et donc, la question, c'est effectivement comment on combat l'hégémonie culturelle. Et d'ailleurs, est-ce que combattre l'hégémonie culturelle, c'est se battre pour imposer une autre hégémonie par rapport à l'hégémonie culturelle existante? Est-ce que c'est autre chose? Ben, là, on est vraiment très confronté à ça aujourd'hui, hein, parce qu'on est confronté à une parole hégémonique, et ça ne suffit pas de la déconstruire. Voilà, il ne suffit pas de la déconstruire pour... Parce qu'il y a une recherche, d'une certaine manière, finalement d'une parole hégémonique qui rassure. Et donc, d'autant plus qu'on est dans une situation de contradiction énorme. Bon. Moi, je suis très frappé, par exemple, par l'existence des nouvelles internationales comme les évangélistes, les islamistes, les hindouistes, les, voilà, qui construisent, enfin, qui se battent pour l'hégémonie. Enfin, là, on est en pleine bataille pour l'hégémonie culturelle mondiale, avec, sortant du bois, toute une série de stratégies.
Moi, ce qui me semble qui est hégémonique, c'est plutôt une certaine idéologie, enfin ce qui est
oui, rampant. Oui, idéologique.
Voilà. Alors, les rapports entre l'idéologique et le culturel, enfin, ils ne sont pas clairs dans mon esprit. En tout cas, je ne sais pas quels sont ceux que tu établis. Mais moi, je vois plutôt ce qui est hégémonique, peut-être contesté ou voire appuyé, selon les cas, par des tentatives hégémoniques comme celle que tu viens de citer. Et ce qui est hégémonique, je pense, c'est la pensée de la marchandise et ce que disait, moi je suis d'accord avec ce que disait Dominique, la montée de l'idéologie libérale ou néolibérale, c'est-à-dire dans une espèce de radicalisation d'une pensée libérale qui avait quand même un certain nombre de mérites, selon moi. Moi je pense que tout n'est pas acheté dans la pensée libérale, loin de là. Mais ce qui caractérise la pensée néolibérale, c'est son économicisme et l'idée que l'homme, la marchandise, sont pratiquement interchangeables, monnayables, quantifiables. Et ça, je pense que c'est ce qui est hégémonique, c'est ce qui réunit Macron, Trump, Orban, Netanyahu, Duterte, Bolsonaro, qui sais-je encore, qui ont quand même des positions très différentes sur plein de choses, mais qui finalement tous sont rassemblés par ce trait-là. Et je pense qu'en plus, il y a... Enfin, moi, mon obsession, depuis quelques temps, est liée au fait que la pensée ou les perspectives émancipatrices se sont, peut-être pas évaporées, mais affaiblies à un tel point qu'on n'arrive plus à les percevoir. Et dès lors qu'il n'y a plus cette pensée émancipatrice, il n'y a plus le goût de l'avenir, une attente positive du futur, une projection positive dans le futur. Et là, c'est l'inversion totale, c'est-à-dire la rétraction vers le passé, d'où, par exemple, le surgissement du culte de la mémoire, du culte des identités imaginaires qui renvoient à un passé fantasmé, et puis la recherche de boucs émissaires. Qui va avec ça, qui permet de faire l'unité du groupe face à une victime désignée qui va emporter avec elle, enfin bref, tout ce qu'on sait sur la victime émissaire ou le bouc émissaire. Et je ne sais pas très bien quoi faire avec ça, parce que c'est un peu décourageant comme perspective, mais enfin, il me semble qu'il y a
quelque chose... Avant de passer la parole, 1, 2, 3, moi, je vais juste mettre en lien ce que vous dites tous les trois, là, Dominique, Gus et toi. Moi, je pense que le marché est hégémonique, on l'a dit. C'est le marché des...
Mais
le marché,
la pensée du marché.
La pensée du marché. Mais le marché, c'est quoi? C'est la paresse intellectuelle. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va donner à vendre? En particulier les éditorialistes, du prêt à penser. Donc on va essentialiser l'autre, parce que transformer l'autre en une complexité à 7h du matin, tu perds ton audimat, t'as plus personne.
Mais non, de toute façon, ils ne savent pas le faire.
Certains sont intelligents, faut pas leur faire un procès.
Mais ils sont pas stupides, simplement quand tu dois pondre trois feuillets tous les jours, ils sont pas du tout stupides.
Juste finir ce que je disais, c'était nous on est confrontés dans le domaine de la formation sur l'interculturalité à une concurrence violente et massive de ces propositions essentielles qui disent le lundi accueillir un Africain, le mardi accueillir un Maghrébin, le mercredi accueillir un Chinois. C'est-à-dire donner à penser aux gens dans cet essentialisme culturel. Et qu'est-ce que fait? Les gens le demandent. Parce que c'est confortable. Et que finalement, la loi du marché fait qu'on est éliminé de l'Institut de Puriculture, on est éliminé de Gonesse, on est éliminé parce que c'est cette loi du marché qui fait que la demande génère de l'offre. Et finalement, bah, l'offre qui ne correspond pas à la demande est éliminée spontanément par, voilà, par sélection
spontanée. Bonne, chasse la bonne. Hein,
voilà, c'est ça. Et donc, je pense que tout ce processus d'essentialisation via la médiatisation, il procède de cette logique de marché. Ça va dans le sens de la paresse intellectuelle qui transforme l'autre en bouc émissaire très facilement. Je passe la parole à Philippe, Étienne et Madame.
Alors justement, je suis allé dans le sens de ce qui vient d'être dit en rappelant toutes les analyses de Noam Chomsky sur la fabrique du consentement, Manufacturing Consent, qui explique justement... Ça dit rien de plus que ce que vous venez de dire sur les médias, la production, de la pensée, ni que ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça donne le mécanisme par lequel ça se produit. Parce que quand on dit ça, cette pensée dominante, cette pensée économique dominante, et puis le fait que... Il y a un risque qui est de voir la manipulation des... Voilà, les alumni qui sont derrière, le grand capital, etc., et comment ils tirent les ficelles, etc. Mais ce que démonte Noam Chomsky là-dedans, c'est justement le mécanisme, qui est un mécanisme de marché, mais justement extrêmement simple, qui fait que les gens, les éditorialistes, on n'a pas à leur dire d'utiliser cette grille, on n'a pas à les contraindre de le faire. Ça se fait tout naturellement par le fait que, comme tu viens de le dire, que pour pondre son éditorial à tel moment, etc., et pour avoir ses produits de masse qui traitent tout, etc., c'est la seule manière de faire et que c'est le plus simple. Et si on regarde ça d'un point de vue justement purement industriel, en sortant de la fabrique des idées, eh bien, voilà, c'est ce qui est le plus facile à produire en termes de nourriture. Ça serait des chips, ça serait des fraises Tagada, quelque chose dont on sait que ça va se vendre, que ça va se manger. À la différence près que si on commence à se nourrir uniquement de fraises Tagada et de chips et de coca, au bout d'un moment donné, on va être malade. Alors que là, au contraire, plus on se nourrit de cette bouillie médiatique, eh bien, plus on en redemande, plus ça nous façonne aussi. Et donc,
on est malade quand même.
Oui, on est malade, mais on s'en rend pas compte. Enfin, c'est pas, on va pas avoir les mêmes.
Étienne.
Oui. Alors, on peut lutter de manière forcément très différente pour essayer de redonner cette vertu émancipatrice que nous recherchons tous depuis 50 ans, Angus, hein, au moins. Hein, bon. Et puis, qu'on ne peut pas relâcher parce qu'elle est dans nos gènes d'une certaine façon. Alors, une chose qui pour moi me paraît très importante et qui poursuit ta réflexion, c'est en reprenant un peu ce que disait Michel aussi, travailler sur le sens des mots. C'est absolument fondamental. Moi, je me suis aperçu dans mon carrière universitaire, que parfois j'avais attendu 20 ans, 30 ans, avant de me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire coutume? J'ai coutume de me gratter le nez quand je suis un peu perplexe. Hein? C'est une manière d'utiliser un mot qui a en fait une vertu, une virtus, une force, dans un contexte dans lequel il a été conçu comme répondant à un certain nombre de fonctions spécifiques. Et ce qui est passionnant, déterminant, c'est de comprendre comment tout cela a évolué, s'est transformé, a été repris, réinterprété, et comment la notion de coutume, par exemple, est devenue totalement dévalorisée, dévaluée dans le marché juridique actuel. Certains juristes considérant même que la coutume n'est plus une source du droit. Donc on en arrive à des situations comme ça. Alors, une des exigences les plus fondamentales pour moi, c'est de revenir à l'origine de tous les mots qui sont au cœur de nos procès d'analyse et d'investigation. C'est coutume, c'est propriété, c'est parenté, c'est mariage, c'est héritage, c'est toutes ces notions-là, elles sont au fond construites dans des univers spécifiques auxquels nous donnons des valeurs qui sont généralement des valeurs universelles, alors que c'est totalement faux, et que la quasi-totalité des notions que nous utilisons à prétention universelle, même la notion de démocratie, même la notion de droit de l'homme, etc., ne sont pas universelles. L'acquis n'est pas fait. le requis est à travailler, et c'est là-dessus que nous devons rechercher justement cette fonction émancipatrice. Alors, comment avancer là-dessus? Eh bien, il y a un certain nombre de pièges idéologiques majeurs. Moi, je travaille sur quelques-uns d'entre eux. Le premier, qui revient souvent dans mes travaux, c'est la notion de monologisme. Et en reprenant un certain nombre de travaux anthropologiques, de Louis Dumont en particulier, qui dit que la modernité a été construite sur un certain nombre de présupposés absolument fondamentaux, et en particulier un principe que je ne vais pas expliquer ici parce qu'il est subtil et complexe, mais qui dit que pour assurer l'unité du discours, on a pensé l'autre comme le contraire de soi. Donc on a réduit la réalité à deux ensembles, et en pensant l'autre comme le contraire, on assure, avec l'apparence d'un égalitarisme, on assure en fait la prédominance de ce que l'on veut véritablement valoriser. Et donc, ce monologisme, moi je l'ai traqué depuis 30 ans, 40 ans, puis je me suis aperçu, avec des travaux de Paul Venn, l'historien de la conversion de l'Empire romain au catholicisme, c'est vachement important cette période-là. C'est vraiment un moment clé dans la compréhension de tout le basculement du polythéisme au monothéisme. Il dit que, au fond, le monothéisme n'a pas été une invention spécifique des Hébreux, qu'elle a été précédée par, au XIVe siècle avant Jésus-Christ, par le monologisme. Avant d'être mono, un seul Dieu, ils sont une seule logique au départ. Et ceci pour des raisons fondamentalement politiques, dit Paul Venn. Et cette idée de monologisme, elle va traverser l'histoire de l'Église, l'histoire de l'État, pour se retrouver dans la modernité comme étant au cœur d'un des rocs non critiqués, inqualifiables, indiscutables, impensables, impensés de notre modernité, dont la crise est absolument évidente, mais en même temps, on ne sait pas gérer ce problème du monologisme. Et constamment, on se retrouve, dans les discussions que nous avons eues depuis ce matin, on se retrouve sur racisme ceci, racisme cela, etc. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça, le monologisme, qui est toujours la clé d'interprétation qui va permettre, avec toute la facilité apparente de l'explication, de trouver la bonne justification à l'ensemble des principes. Donc, la grande clé pour moi, ça reste le pluralisme. Le pluralisme normatif et juridique pour ce qui concerne mes propres travaux, mais de manière plus générale, cette idée du pluralisme qui ne peut être véritablement assumé maintenant que si on est passé par la critique du monologisme. Et ça, personne ne le fait. Et à chaque fois que moi j'essaie d'ouvrir le questionnement, c'est le silence radio le plus absolu, c'est de l'ordre de l'indicible. Or, quand même, c'est un pari absolument incroyable, ce monologisme. Être capable de réduire la diversité à l'unité imposée d'une instance, d'un concept, c'est... alors que rien, aucune preuve scientifique ne permet véritablement de l'expliquer, sauf ce principe de l'englobement du contraire que Louis Dumont a développé en 1984 dans ses essais sur la modernité, je crois. Bon, je commence à me fatiguer, mais je suis en situation de pré-départ.
Vous vouliez intervenir?
Oui, excusez-moi de m'introduire dans le débat. J'étais déjà là les années passées, mais dans le cadre de mon doctorat. Je suis partie 2 ans, c'est pour ça que vous ne m'avez pas vu, pour ceux qui m'avaient déjà aperçu. Donc je suis de retour de mon terrain au Canada, puisque je fais une étude comparative entre la France et Québec dans le domaine de la gestion des conflits interculturels. Donc voilà, je suis très intéressée par le débat et tout ce que vous dites me saisit de l'intérieur. Et ma question s'adressait un peu à vous, puisque vous êtes un acteur fort du terrain. Et c'est vrai que si on revient sur la question du processus d'essentialisation et qui met en scène comme ça cette pensée dominante, dominée, dominant, du point de vue du dominé, je suis toujours frappée par le fait que on a l'impression que voilà, il y a toujours un bourreau et la victime. Et c'est caricaturé ce que je dis là entre guillemets. Hein. C'est parce que je veux voir le basculement du dominé. Comment il a pu, comment on a pu, de manière... j'ai envie de dire un gros mot, mais de manière prolongée dans le temps, parce que quand on remonte l'historiographie, c'est quelque chose qui est ancré de génération en génération, comment on a pu inscrire dans nos conscients, dans nos subconscients, ce stoïsme, tel que le syndrome de Stockholm, hein, où on est convaincu, le basculement se fait qu'on est convaincu qu'on est des êtres, entre guillemets, inférieurs, et on le devient. La preuve, lorsqu'on dit à un enfant, tu es idiot, tu es idiot, tu es idiot, il finit par s'intérioriser qu'il est idiot, il le devient. Et quand on entend les différents témoignages, on se rend compte, parce qu'on se demandait, mais comment est-ce qu'on a pu inscrire dans le temps cette pensée que nous sommes en train d'aujourd'hui analyser? Justement, de mon point de vue, j'ai l'impression que nous, notre positionnement sur le terrain, elle est très belle, l'analyse que vous faites, elle est frappante. Mais j'ai aussi l'impression que si, à chaque fois, on se met toujours de ce côté-là, heureusement qu'il y a des gens comme vous, hein, parce que ça nous touche beaucoup. Mais bon, en même temps, nous devons analyser quoi ? Notre point de vue, je comprends que la parole est porte-voix, hein. Je comprends que la question des éditions, c'est quasi impossible. C'est quasi impossible. Tout ce que une personne issue de l'immigration peut écrire n'a aucun sens. La littérature, elle vient de l'Occident. On est conscient de ça. Nous, les jeunes chercheurs, on est conscient. Mais comment faire ? Et de votre point de vue de terrain, ça m'intéresse beaucoup parce que moi, je suis issue du terrain avant d'entrer dans l'analyse. Et ça aussi, sa spécificité, sa complexité, d'ailleurs, on le ressent hein, dans les recherches. Comment vous avez pu, vous, analyser la position du dominé ?
Enfin, moi, je ne prétends pas du tout... analyser la position du dominé, je prétends juste prendre un peu de distance par rapport à ces événements, sans savoir très bien dans quel... Enfin, disons, les catégories dominant-dominé, elles sont pertinentes dans un certain domaine, mais comme toute catégorie, elles ont leurs limites. Elles ne rendent pas compte de la diversité de l'expérience humaine, de l'expérience politique. Donc, autant je ne récuse pas ces catégories, autant je serais prêt à contester qu'elles sont utiles pour la description du monde dans son ensemble. Donc il faut savoir les saisir dans leur pertinence et dans leur domaine. Et en ce qui me concerne, ça n'est pas exactement dans cette relation binaire que je me situe, même si je peux l'utiliser pour des... Pour mes analyses, par exemple, quand Sarkozy entre en guerre pour punir Kadhafi, la relation dominant-dominé, elle est le prolongement, ou elle est la traduction pratique, ou traduction, disons, idéale, de l'impensée coloniale dont je parlais tout à l'heure, qui repose évidemment sur le fait qu'il y a des dominants naturellement dominants, et des dominés naturellement faits pour être dominés. Ben là, ça, il est évident que Sarkozy va renverser Kadhafi, personne se demanderait si Sarkozy, si Kadhafi est légitime pour renverser Sarkozy. Il y a une espèce d'ordre naturel qui se crée. Donc ça, ce sont des catégories que j'utilise effectivement dans un certain domaine. Mais je ne peux pas répondre à votre question. D'abord parce que je ne suis pas sûr que dans toute l'histoire, enfin je suis aussi un lecteur de Paul Venn que citait Étienne à l'instant, et ce ne sont pas, par exemple, pour la description de l'Antiquité romaine, ce ne sont pas des catégories qui semblent judicieuses pour comprendre ce qui se passe. Bien entendu, il y a des relations de domination, il y a des relations de pouvoir, ça personne ne le contesterait, mais ce qu'on entend par dominant, dominé aujourd'hui, ce n'est pas exactement ce qu'on voyait, par exemple, sous l'Empire romain, même s'il y avait des gens qui avaient du pouvoir et d'autres qui subissaient leur pouvoir. Voilà, donc, en fait, tout ça, tous ces mots pour ne rien dire, parce que je ne sais pas comment répondre à votre question.
Moi, ça me renvoie quand même à la pédagogie de l'opprimé de Paulo Freire, qui part du principe justement que l'oppression est d'abord intériorisée. Et donc toute la pédagogie, c'est la conscientisation, faire prendre conscience de cette intériorisation, l'opprimé se comportant comme opprimé, sans que l'oppresseur ait exercé la moindre pression.
Mais la conscientisation, c'est un rapport de pouvoir.
Et après, c'est renverser le pouvoir.
Moi, c'est ce qui m'a toujours gêné dans cette... J'ai jamais voulu utiliser ce terme de conscientisation auquel j'ai été confronté à de nombreux niveaux, parce que ça veut dire que certains ont la conscience et d'autres ne l'ont pas.
Faire prendre conscience.
Ben oui, faire prendre conscience, c'est bien. Ça veut bien dire que toi, tu as déjà pris conscience et que tu t'adresses à quelqu'un qui n'a pas cette conscience. Tu vas lui dévoiler la réalité.
Pas du tout.
Tu vas l'amener à sa
propre conscience. Là, on revient à la narcissisation. On vient au processus de renarcissisation. C'est pas forcément la conscience politique.
Lutte des classes.
Alors, il y a Philippe et puis Michel.
Oui, alors... Finalement, je vais rebondir directement sur cette question avec un témoignage de Claire Michalon qui a écrit « Différences culturelles, mode d'emploi », qui a une formation d'agronome, qui a pas mal travaillé en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, etc. Et lors de la naissance de son deuxième enfant en Afrique, sa femme a accouché en Afrique noire, dans un village, etc. Et il a eu un témoignage des habitants qui m'ont dit « Mais c'était la première fois qu'ils voyaient un bébé blanc à la naissance. » Ils étaient surpris que le bébé blanc ne parle pas. Et voilà, c'était un bébé blanc. On pensait que le bébé blanc parlait à la naissance. C'est un bébé blanc quand même. Donc voilà, c'est un exemple de comment cette intériorisation peut se faire. Ensuite, je pense qu'il y a une dimension fractale et pyramidale, qu'on est tous plus ou moins l'exploiteur et l'exploité de quelqu'un, et qu'il y a peut-être quelqu'un qui est tout en haut de la pyramide, mais qu'on ne connaît pas très bien, même pas notre président, voilà. tout en haut, et qui fait qu'on est tous, on a tous ces sentiments, et que d'une certaine manière, je pense que psychologiquement, on n'est jamais assez riche, on n'est jamais, et les plus riches se comparent, on se compare toujours à d'autres, et donc se comparent, etc., etc. Alors moi, je le vois au niveau européen, avec les pays avec lesquels je travaille, entre les grands pays et les petits pays, mais voilà, on est tous le petit pays d'un autre, d'un plus grand. Voilà.
Michel.
Moi, je voudrais bien revenir sur cette question de l'usage des catégories dominant-dominées. Je suis désolée d'intervenir encore sur ces questions de mots, mais ces catégories sont faites pour nous empêcher de penser le changement. Parce que le changement social, c'est quand même, pas toujours, mais parfois, des dominés de la période précédente qui trouvent un moyen pour changer des choses dans l'ordre social. Donc ces catégories sont spatiales, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de changement. Donc on a des difficultés, on n'est pas armé pour... On nous a bien formaté pour penser comme ça. C'est pas seulement d'être dominé, c'est... La recherche, la pensée fonctionne avec ces catégories. Moi, j'aime assez bien, et je crois que pour la recherche, c'est extrêmement utile, Hannah Arendt attire l'attention sur le fait qu'il y a le pouvoir sûr, le pouvoir de domination, mais il n'y a pas que celui-là. Il y a le pouvoir de faire quelque chose, d'agir et de changer les choses. Et si d'emblée on a comme catégorie dominant-dominé, eh bien on va projeter ça sur les situations sociales sans voir qu'il y a sans mettre en avant des gens qui ont changé des choses ou qui peuvent changer des choses. Pour moi, ces catégories sont devenues complètement obsolètes dès que je suis allée dans le Sahel, où j'avais des amis qui, ici en France, étaient balayeurs de la ville de Paris, étaient dominés. Mais une fois arrivés là-bas, c'est des leaders politiques incroyables.
Incroyable.
Voilà. Et c'est ça qui est important, c'est qu'ils soient leaders à certains moments, quoi. Donc de valoriser, de travailler sur ces autres expériences qui ne sont pas réductibles à cette matrice statique, ça donne à voir, ça donne des idées aux autres, et ça fait... Enfin, voilà, on ne peut pas faire grand-chose aujourd'hui, mais au moins montrer, faire connaître qu'il y a d'autres gens qui font bouger les choses. La charte des 77, l'effondrement de l'Union soviétique et des pays de l'Est, pour aller vite, ce n'est pas une bonne expression, mais admettons, démarre sur une charte qui a été signée en Tchécoslovaquie pour défendre un groupe de rock qui était interdit de jouer. Ça démarre sur quel... Comment il n'est pas question de prévoir le changement social, mais quand on le voit après coup, on s'aperçoit qu'il ne faut jamais lâcher, qu'il faut... Voilà. Et ça donne un autre discours qui n'est pas de morphologie sociale, mais d'événement déclencheur, quoi. C'est un bouger dans le... La question, c'est de penser le changement et d'outiller les gens pour le penser.
Et peut-être penser le changement de son rapport au pouvoir.
Oui.
C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'être dominant? Qu'est-ce que c'est qu'être dominé? Qu'est-ce que c'est que le pouvoir?
Comment, quand on est dominant, on devient... Donc, quand on est dominé, comment devenir non pas dominant?
Non pas dominant, ça, mais voilà. Mais comment trouver
c'est
de...
dominer non plus. C'est,
trouver c'est de nouvelles relations. Ouais. Voilà, qu'est-ce que c'est que... Voilà, la façon d'être ensemble.
Ouais. Ça a été beaucoup pensé, ça, quand même. La psychothérapie institutionnelle, c'est ça, hein.
Oui, mais enfin, on n'est pas que dans l'institution psychiatrique.
Non, mais ça veut dire penser les choses. Par exemple, je suis frappée, enfin, je ne sais pas, ça dévie peut-être un peu, mais j'ai assisté à un débat de Gilets jaunes à Paris, c'est-à-dire après Commercy, et puis il y en a un à Saint-Nazaire la semaine prochaine. Je me suis dit, je me pince là, je vais me réveiller. C'était formidable, c'est des gens qui parlaient les uns après les autres, disaient chacun quelque chose qui... Enfin, peut-être que je vais vous le décrire là, vous n'allez pas me croire. C'était un partage respectueux des positions de chacun, qui l'énonçait, qui pouvait l'énoncer en toute liberté. Il y avait 450 personnes à Paris, c'était le 16 mars là. Et ça venait de l'Est, de l'Ouest, du Sud, enfin bon. Des jeunes femmes aussi, beaucoup. Et puis une personne qui a dit qu'elle était juive, c'est... Parents avaient été Auschwitz et qu'il n'était pas sioniste, par exemple, c'est là au milieu, tout d'un coup, qui dit je suis pro-Palestine, là au milieu. Bon, voilà. C'est... Et il y avait une expression comme ça, des luttes sur le terrain, par exemple, de Fralib. Voilà, des choses extrêmement différentes. Et puis alors les travailleurs sociaux, et puis les chercheurs, enfin, il y en avait plein. Une liberté de parole, d'expression, une maturité dans le respect de la parole de l'autre et du temps de parole, et cette volonté de partage. Il n'y avait pas de hiérarchie de la parole là. Moi, je n'ai pas ressenti, quoi. Je me suis dit, j'assiste à une réunion d'équipe à HP, quoi. c'est celle animée par moi, genre.
Oui, oui,
restant modeste. C'est-à-dire pas modeste du tout, mais c'est vrai que vous voyez ça, pas de hiérarchie. Bien que j'ai été en position de médecin-chef. Justement, non, pas de hiérarchie. Donc on parlait avec les patients, on faisait des réunions, patients, soignants, voilà. Et là, c'était un peu pareil, c'est-à-dire qu'il y avait toutes catégories sociales confondues, je ne sais pas si on avait plein, 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 mais il y avait des ouvriers aussi. Ils s'exprimaient, ils étaient contents de dire ce qu'ils voulaient. Et il y avait des jeunes personnes à la tribune qui avaient organisé cette chose-là, qui préparaient Saint-Nazaire, donc là, dans la semaine qui vient, et qui disaient, bon, mais maintenant, il faut une décision. On ne peut pas partir sans décision, on ne va pas faire du blabla, comme de grands débats, là, donc on décide. Alors là, ça a commencé à se friter un peu, mais moi j'ai trouvé très positivement, et finalement, blocage général du pays le 20 avril. Voté à l'unanimité, et sur un texte, qui a débouché sur un texte incroyable. Enfin, ce sont des gens cultivés, là, qui en arrivent. Je vais vous dire, Machin Nicole, là, il est impressionnant de penser, ce type. Enfin, moi, alors que ce sont des gens qui n'ont pas fait de hautes études. Hein.
Ah, oui.
Il y a une espèce de niveau culturel, justement, qui est tout à fait impressionnant. Enfin, moi, ce que je... Enfin, peut-être que je rêve. Je vous dis, peut-être que je vais me passer, je vais me réveiller. Mais peut-être que c'est ce dont je rêve. Mais en tout cas, moi, j'ai pu y coller, en tout cas, mon rêve, là, sur cette réalité, ce jour-là. Et ils ont créé un appel, un manifeste, une charte qui va circuler, qui circule déjà, je ne sais pas, écrit comme ça en une demi-heure, sur un bout de table, par une jeune personne. Et je me suis dit, mais attendez, il sort d'où ce texte? Alors, je suis allée le voir, je me suis dit, qui a écrit ça? C'est moi, une petite gamine, qui dit, voilà, j'ai dit, mais attendez, vous l'avez écrit? Elle dit, oui, je me suis mis sur le bout de table, là, puis bon, voilà, et j'ai écrit cette remarquable. Donc, reprise quasi mot à mot par la salle, mais assez rapidement, dans la confiance, et ce texte est sorti. Voilà. Et les autres de dire, elle est bien, hein, elle est bien, bravo, elle était bonne. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une production là par cette jeune femme, reconnue par les autres. Voilà, je voulais vous dire ça.
L'action collective, les luttes sociales ont des vertus qui ont été déjà décrites et que cet épisode illustre très très bien. Bonjour. Et par ailleurs, le mépris de classe qui s'exprime pour disqualifier les leaders ou en tout cas les personnes qui ressortent dans le mouvement des Gilets jaunes, il n'est plus non plus à décrire, et notamment le mépris de classe de ces éditorialistes, de ces journalistes, etc. Enfin, de certains journalistes, parce qu'il ne faut surtout pas... Vraiment, enfin, c'est important de ne pas généraliser ce genre de choses. Cela étant, par rapport à ce que tu disais...
Celui-ci, il n'est pas dans le mépris de classe.
Non. Mais tout de même, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu disais. D'abord, une réserve sur cet esprit insurrectionnel, enfin, dans la réflexion sur les vertus de l'insurrection et de la suite, on bute généralement sur ce qu'on pourrait appeler le jour d'après. Quand les charmes et les enthousiasmes de l'action collective commencent à se dissiper, qui reviennent les décisions, et d'ailleurs, on commence déjà à se tendre quand il s'agit de déboucher sur quelque chose de précis, de décidé. Et donc je pense qu'il faut un peu dissocier les deux. Et puis par ailleurs, je crois qu'il est... Enfin, ayant dans l'esprit que nous sommes toujours pas remis de la chute du communisme et qu'une bonne partie de la crise dans laquelle on s'est trouvé, c'est celle juste, enfin, de la crise au sens gramsciiste du terme, quoi. On est sorti d'un système, on n'est pas encore entré dans un autre et on ne sait pas... finalement, où on est. Mais justement, c'est aussi la je parle du communisme parce qu'il y a aussi, je crois, une réflexion à avoir sur les relations d'égalité. Parce qu'effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit sur les limites de cette relation dominant-dominé. Mais les limites, ça ne veut pas dire l'annulation de cette... c'est-à-dire l'inexistence de cette... Elle existe, mais dans certaines limites. C'était ce que la remarque que je voulais faire... aussi, elle n'est pas explicative de tout. Mais bon, je ne veux pas prendre trop de temps, je veux juste dire que je ne crois pas que un médecin-chef de service puisse avoir une relation égalitaire avec l'ensemble du service. Je voulais te prendre sur ce désaccord-là. Parce que tu es celle qui peut décider qu'il y a une relation égalitaire.
Non, pas du tout.
Donc,
parce que la psychose, elle ne te laisse pas faire ça.
Comment ?
La psychose, elle ne te laisse pas faire ça. Ce que tu apprends dans cette place-là, c'est que tu n'es pas à cette place-là. Si tu t'y crois ou si tu t'y accroches, tu deviens autoritaire ou fou toi-même.
Alors, pour le dire autrement...
Mais les psychotiques, je peux te dire qu'ils te délogent. Hein.
Ah, ça, c'est clair.
D'accord.
Et là, on est dans l'égalité, parce qu'ils ont un pouvoir symbolique que je suis. D'avoir,
j'admire
la façon qu'ils ont pensé les choses, un peu à la Deleuze et Guattari,
si tu veux. Oui, enfin,
de l'anti-Euse.
Enfin, disons, enfin, moi je maintiens mon désaccord.
Ces gens-là, hein.
L'égalité, disons, bon, l'égalité existentielle, elle est une réalité. Enfin, c'est un effort, mais enfin, c'est aussi, ça peut se constater. Mais cette égalité existe en un temps et en un lieu donné, mais ces psychotiques qui sont quand même caractérisés par une négativité, qui est celle d'être dans une attente de soins, en tout cas dans un processus de soins, tandis que ta position de médecin-chef, elle est caractérisée par une positivité, c'est-à-dire la capacité de délivrer des soins, en plus du fait que tu sors de l'hôpital le soir, etc.
Enfin, pas
donc,
du
tout. C'est...
le problème, c'est très important.
Oui, non, mais je ne veux pas dire les vertus. C'est une notion d'égalité que je voulais...
C'est un débat très intéressant, mais bon, peut-être...
Un petit mot rapide, alors pour retourner un peu ce qui vient aussi d'être dit, parce que je ne sais pas si on se rend bien compte aussi par rapport à ce qui a été dit, par rapport à ces positions dominantes, à ces pouvoirs des mots, etc., qu'on est quand même perçu par une certaine partie de la population, voire une grande partie de la population, comme étant membre d'une élite, de l'élite bien pensante, représentant les valeurs dominantes de la société, valeurs démocratiques, etc., etc. Et moi, ce qui me surprend, c'est suivre les réseaux sociaux. On se fait agresser régulièrement par la fachosphère, ça arrive assez vite. Et à ce moment-là, ce qui est étonnant, c'est que je pense, en toute bonne foi pour un certain nombre, on se fait asséner des social justice warriors, donc nous qui sommes pour l'émancipation, ce genre de choses, les valeurs qui me semblent percevoir autour de cette table, et bien ça, pour un certain nombre de personnes, c'est vu comme quelque chose de normatif, et de normatif ayant pour vocation à castrer toute pensée dissidente en dehors de ce qui est...
Et asseoir la domination.
Et asseoir la domination. Mais en attendant...
Est-ce que c'est vraiment faux
Je donne
Je mettrai un point d'interrogation.
Dans mon installation libérale, je fais quasiment pas de coup, par exemple.
Oui, non, mais à toutes. Payer.
Quasiment, le minimum. C'est-à-dire que c'est pas seulement des mots, des blabla, de la castration, etc. C'est une position à la place que j'occupe dans le social.
Non, mais le thème aujourd'hui, c'était pas toi, Dominique, le thème aujourd'hui, c'était la médiatisation globale. Bon, en tout cas, merci, et puis oui.
Alors, je voulais juste prendre la parole et vous prier de nous excuser de l'arrivée tardive, mais je voulais absolument, même si c'était pour 10 minutes, entendre ce que j'entends là, faire venir quand même. On s'est posé la question quand on a vu l'heure, quand on a vu les transports, si c'était encore nécessaire de venir, mais oui, on a bien fait de venir, et bien nous excuser d'arriver en retard. Et de tout ce que j'entends, outiller la pensée pour le changement, moi qui suis un établissement scolaire, je me pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions avec le milieu qu'on a, le public scolaire qu'on accueille. Actuellement, on est en train de les endormir plutôt que de travailler à outiller leur pensée. Ils dorment, ce qu'ils entendent sur les réseaux sociaux et toutes les aberrations possibles. Et donc, je m'inquiète pour le futur, en tout cas dans le public que nous accueillons.
Je vais mettre en ligne ce qui était avant votre arrivée.
Alors, je voulais dire que moi je suis le pédiatre de ville, donc je parle avec des enfants, et tout le temps je leur apprends la théorie des points de vue. Et à chaque fois, je leur donne toujours des exemples, et un des préférés c'est pour... À la même époque, les Égyptiens anciens n'aimaient pas le porc. Le porcher, c'était le métier le plus vil. Les porcs n'avaient pas le droit de s'approcher du temple. Et ils avaient compris que le porc transportait un parasite. Ils se trompaient de diagnostic, mais ils avaient fait ce nom de parasite, mais ils avaient bien fait. Alors qu'en face, Pénélope, elle pouvait tuer un porc pour recevoir les prétendants à la succession de son mari. Et comment se fait-il qu'un disait blanc et l'autre disait noir? J'ai fini par comprendre que les Égyptiens anciens faisaient rôtir la viande, donc le centre était rose, donc le parasite pouvait être transmis, alors que les Grecs faisaient des ragoûts hyper cuits, donc le parasite était cuit, donc ils avaient raison de dire noir et blanc, ils avaient tous les deux raison, et donc c'est pas à peine de se disputer, il fallait justement regarder le point de vue des autres. Et ça fait partie de toutes mes consultations. Voilà.
Non, c'est bon.
Merci beaucoup. Bon, merci. Alors, vous êtes ici au cœur de l'actualité, puisque vous avez le Tout Paris qui est cinématographique qui circule devant la maison d'Agnès Varda. Donc, si vous avez de la chance, vous verrez, vous croiserez Alain Delon et les autres.